Bonsoir. Plusieurs institutions provinciales ne perçoivent pas depuis quelques mois du gouvernement central les moyens financiers destinés à leur fonctionnement. Certains gouverneurs parlent même de la modicité des moyens mis à leur disposition et des moyens qui arrivent au compte-gouttes. Dans certains cas, les députés provinciaux sont impayés depuis le mois d'août dernier. Comment analyser cette situation? Nous en parlons avec Benoît Youlama, il est conseiller du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Bonsoir, monsieur Benoît Youlama.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Paulin Odiane, il est député provincial de la province du Haut-Uele. Il est ministre honoraire des ressources naturelles de l'ancienne province orientale. Bonsoir, honorable Paulin Odiane.
Bonsoir, mon frère, et bonsoir à tous.
Maître Gilbert Kertingué, l'expert en décentralisation. Bonsoir, maître Gilbert Kertingué.
Bonsoir, monsieur Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Les provinces de la RDC connaissent de sérieux problèmes de fonctionnement depuis quelques mois et pour cause, la non-dotation par le gouvernement central des moyens financiers destinés au fonctionnement des provinces. Certains gouverneurs parlent même de la modicité des moyens mis à leur disposition et des moyens qui arrivent au compte-gouttes. Conséquence, les députés provinciaux sont impayés depuis le mois d'août. Michel Kifinangoy pour les détails.
Dans les Lualaba par exemple, la province n'a jamais bénéficié d'une quelconque rétrocession du gouvernement central depuis l'investiture de l'actuel gouverneur, renseigne un ministre provincial. Au sud Kivu, les ministres comme les députés connaissent un retard de paiement de leur salaire depuis maintenant 3 mois faute des moyens, renseigne un autre ministre. Dans la province du Tanganyika, les députés venaient à peine de toucher les salaires du mois d'août, confirme un député provincial. La province du Kwango est plutôt bloquée, souligne le député Noël Yan.
Nous ne comprenons pas pourquoi on n'est pas payé. Il y a un budget et le budget devra être exécuté.
Situation aussi déplorée dans le Haut-Uele, ajoute le député Paulin Odiane.
On a pu régulariser la situation du mois d'août, mais les autres mois sont restés impayés. Tout en sachant aussi que depuis le mois de juin, la rétrocession a diminué sensiblement, 40%.
La nouvelle société civile de la province de Bas-Uele a même exigé le week-end dernier à Bouta la démission du gouvernement pour la non-réalisation des projets sur terrain. Ce dernier parle plutôt de la modicité des moyens mis à sa disposition. Arma Kasumbu affirme que la réduction sensible de l'enveloppe financière allouée à sa province dans le cadre de la rétrocession ne lui permet pas de faire face aux charges de la province.
Ici à Kinshasa, l'Assemblée provinciale ne siège pas depuis la plénière d'ouverture de la session budgétaire intervenue le 30 septembre dernier. Et pour cause, les députés provinciaux impayés depuis 4 mois réclament leurs arriérés démoliment. Du coup, c'est la paralysie de l'organe délibérant de la capitale. Innocent Olenga.
Plusieurs députés contactés par Radio Capi donnent la même raison de la non-tenue des plénières depuis l'ouverture de cette session de septembre. Nous ne sommes pas payés. Ils dénoncent les jeux de ping-pong entre les gouvernements provinciaux et les bureaux de l'Assemblée. Lorsqu'ils se présentent, nous avouent-ils devant le président Roger Singhi, ce dernier les renvoie auprès du gouverneur André Kimbuta. Ce dernier les renvoie à son tour au président Roger Singhi, estimant qu'il ne doit rien d'arriérer aux députés provinciaux, ce qui fâche ces derniers. Mais pourquoi n'initie-t-il pas des motions de défiance? Un député qui a requis l'anonymat déclare à Radio Capi que tous les députés sont, selon ses termes, achetés. Il fait remarquer qu'actuellement à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est difficile de faire la démarcation entre les députés de la majorité et ceux de l'opposition. Chacun, conclut-il, est à la recherche de sa survie. Entre-temps, il ne reste qu'un mois et demi pour que se clôture cette session pourtant budgétaire. Et c'est la ville qui en pâtit malheureusement, fait observer impuissamment notre interlocuteur.
Benoît Youlama, je rappelle que vous êtes conseiller du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Vous venez de suivre ces reportages faits par Michel Kifinangoy et Innocent Olenga. Et pourquoi le gouvernement central ne dote presque plus aux provinces les moyens financiers destinés à leur fonctionnement?
Merci beaucoup, M. Guy, pour nous avoir associés à cet échange. Mais d'emblée, je dirais qu'il y a un problème de recettes. Et presque tous ces membres des gouvernements provinciaux et ensemble provinciaux savent que les recettes ont sensiblement diminué. La crise est difficile à l'instant par rapport à ce que nous avons comme situation sur terrain. Et donc, le paiement va continuer. La rétrocession sera certainement envoyée là où ça pourrait encore causer des petits retards. Mais les provinces ont une autonomie financière. Elles ont l'obligation de se débrouiller avec leur régie financière provinciale. Et elles doivent aussi contribuer à l'enveloppe globale de la nation. Mais il y a des provinces qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas envoyé une seule recette au trésor public, mais qui n'entendent que la rétrocession. Vous avez cité, j'ai suivi les reportages du Bazuélé, où la rétrocession a commencé depuis le mois de mars, mais jusqu'à aujourd'hui, le gouverneur que vous venez de citer n'a pas encore acheté même une hache pour sa province. Et tout le temps, nous déplorons d'ailleurs, même au niveau du ministère, que le responsable de province, presque la plupart des gouverneurs font autant de voyages à l'extérieur du pays, et les voyages qui ne ramènent absolument rien à leur population. Et donc, on ne peut pas commencer à justifier des choses qui ne peuvent pas se justifier, puisque depuis le mois de mars, ils ont eu de l'argent, et s'il fallait faire quelques projets, je crois qu'on pouvait le faire, honnêtement, réussi même à réhabiliter 2, 3, 4, 5, 10, peut-être 100 écoles. Certains ne l'ont pas fait, puisqu'il y a de la mauvaise foi, mais je crois qu'il faudrait certainement à ce niveau-là que les assemblées provinciales qui certainement se trouveraient dans cette situation nous aident à faire un contrôle. Mais malheureusement, les cas que vous avez énumérés, Bazuélé, parce que vous trouverez que le bureau de l'Assemblée provinciale est déjà de la coupe du gouverneur. Et donc, je crois qu'on ne peut pas considérer que l'État ne fait pas suffisamment. Les provinces ont l'obligation de produire et les régies financières qui ont été créées ont l'obligation de donner des recettes
vrai,
aux provinces.
Les provinces, comme vous le dites, vous expliquer cette situation par les recettes qui ont sensiblement diminué. Et vous vous rappelez, n'est-ce pas, que les provinces ont une autonomie financière, mais vous le savez très bien, il est de l'autorité publique que ces provinces ont du mal, n'est-ce pas, à mobiliser les recettes. Vous le savez, non, n'est-ce pas, monsieur Yulama?
Bon, moi, je ne dirais pas que les provinces, je ne saurais pas dire que je ne connais pas la situation qui se passe présentement à travers le monde et particulièrement dans les tiers mondiaux aussi en RDC, mais je ne crois pas que les gouvernements sont arrivés au pouvoir pour croiser les bras pour entendre que tout arrive du pouvoir central. Et lorsque vous voyagez, par exemple, vers le Congo central ou dans le Haut-Katanga, il y a des vols qui font de tout presque tout le jour. Et il y a la taxe provinciale, même ici à Kinshasa. Alors, cette taxe-là, on doit attendre seulement la taxe centrale pour pouvoir reconstruire les routes et se faire payer.
Vous savez très bien qu'il y a des recettes à caractère national, n'est-ce pas? Et toutes ces recettes qui sont faites par les gouvernements provinciaux, elles sont envoyées ici à Kinshasa. Mais il se pose un problème quand il s'agit de rétrocéder, n'est-ce pas, la part à ces provinces.
Non, M. Guy, je vous rassure qu'il y a des provinces qui n'envoient même pas un seul franc au trésor public. Et je peux vous citer qu'une grande partie des provinces de l'ex-Équateur, Choapa, Mongala et autres, n'envoient presque absolument rien dans le trésor public. Je peux vous rassurer aussi que la province comme Bazuélé, que vous avez cité, n'a même pas où taxer. Jusqu'au moment où je vous parle, est-ce qu'il n'y a aucune initiative? Alors, si vous prenez les autres qui ont des structures bien organisées, le Congo central, il y a des recettes, le Haut-Katanga, il y a des recettes, et il y a aussi Kinshasa, c'est parmi les trois provinces qui sont presque en tête, et ainsi que la Tchopo, qui produisent des recettes qu'on envoie directement au trésor public. Mais en dehors de ces recettes que nous sommes en train de parler, il y a des régies financières provinciales qui ont des recettes directement encaissées et qui passent directement dans leurs comptes respectifs. Et donc, à ce niveau-là, on ne peut pas attendre la rétrocession de Kinshasa pour pouvoir travailler. Mais il semble que dans certains endroits, il y a des gens qui sont un peu plus distraits à chercher à toquer à telle ou telle porte parfois, quand bien même il n'y a pas d'argent. Mais on veut tout justifier pour dire que le pouvoir central n'a rien envoyé. Alors, qu'on dise que le gouvernement central doit tout donner, non.
Vous avez évoqué les provinces qui produisent beaucoup, hein, à savoir le Katanga, le Bas-Congo et Kinshasa. Et on sait que depuis toujours, ces provinces ont dénoncé le fait que la rétrocession n'est pas faite au prorata, n'est-ce pas, de leur production. On se rappelle le gouverneur Katumbi qui, à plusieurs reprises, n'est-ce pas, il avait dénoncé cela. Et il avait même dénoncé le fait qu'il y avait des provinces qui ne produisaient pas assez, mais qui recevaient beaucoup plus des rétrocessions par rapport à celles qui produisaient beaucoup. Est-ce qu'on continue à observer ces phénomènes jusqu'à aujourd'hui?
Bon, moi, je ne crois pas que c'est un phénomène à observer, étant donné que nous parlons nation, nous parlons Congo. Il n'y a pas une province qu'il faut avantager par rapport à une autre. Nous sommes des Congolais. Et je pense que si on veut aider le Congo, on ne peut pas dire, puisque telle province a beaucoup produit, donc il faut que la province qui n'a pas suffisamment envoyer des ressources soit sacrifié. Nous ne voulons pas cela. Nous souhaitons que nous puissions parler du Congo. Alors, décrier, est-ce que c'est nécessaire? Je ne pense pas. Mais nous avons une loi qui a déjà été promulguée par le président de la République sur la caisse des péréquations qui va certainement répondre à toutes ces questions-là. Mais nous devons raisonner Congo, que raisonner nos provinces. Puisque avant tout, nous sommes Congolais avant d'être ressortissant de telle ou telle province, puisque chacun de nous a l'obligation merci d'habiter partout à travers le territoire national.
Merci Paulin Odiane, député provincial de la province du Haut-Uele. Vous êtes ministre honoraire des ressources naturelles de l'ancienne province orientale. Comment vous expliquez ces phénomènes? Vous avez suivi M. Benoît Yulama qui estime qu'il y a des provinces qui ne foutent absolument rien.
Merci beaucoup pour la question. Je tiens d'abord à saluer Monsieur Benoît et notre expert de la décentralisation et vous-même. Je crois que la Constitution et les différents instruments juridiques qui organisent, qui régissent le pays, parlent clairement des ressources financières des provinces. Je crois que, à part la retenir à la source, qui est prévu par la Constitution. Nous avons également la caisse de péréquation. Nous avons les recettes locales. Donc, toutes les recettes que je viens d'énumérer font partie des ressources financières d'une province. Et je crois, pour ma part, que les conseillers du ministre, lui, en tant que conseiller du ministre, il sait très bien comment nous sommes arrivés à ce que nous appelons démembrement des provinces, il sait très bien. Et démembrement des provinces, au début, il y a les uns et les autres qui ont bien souligné l'aspect financier à ce qui concerne le démembrement des provinces. Il y a des provinces qui ont des difficultés, qui n'ont pas assez de recettes au niveau local, et même des recettes à caractère national. Donc, il faut soutenir cette nouvelle province. D'abord, le gouvernement central avait bien dit que non, il a des ressources financières conséquentes pour soutenir les nouvelles provinces. Je suis moi-même surpris de constater que les ressources dont on avait fait allusion ne se retrouvent plus. On ne voit plus ces ressources et les moyens financiers qui étaient disponibles pour soutenir les nouvelles provinces, ces moyens financiers n'existent plus. Ça, c'est un. Le deux, la Constitution parle de retenir la source. Ce dossier était évoqué à maintes reprises. Je crois que c'est la province de Maniema qui avait soulevé le fait qu'on ne puisse pas suivre le 40%, qu'on puisse rétrocéder des ressources aux provinces sans tenir compte de leur capacité de mobilisation des recettes. Parce que Maniema savait très bien qu'elle n'est pas en mesure de se développer à partir de la retenue des 40%. Et tout le monde a concédé à ça, tellement que le ministère des Finances était dirigé par le chef de Maniema, on a retenu cette option-là. Donc, au moment où nous parlons, les anciennes provinces, les 5 provinces restantes non démembrées, ces provinces gardent leur montant initial de rétrocession. On n'a jamais touché à ça. Elles continuent à toucher ces montants. Tandis que les provinces démembrées, par exemple la province orientale, on a pris l'enveloppe qui était destinée à la province orientale, on a scindé ça à 4. Donc on a divisé ce montant par 4. Tandis que Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Kinshasa, Bas-Congo, l'enveloppe est restée la même.
Voilà l'injustice au sommet de l'État. Ça, c'est l'injustice. De deux, on n'est pas resté là. Le montant, l'enveloppe est divisée par quatre. On a rétraché encore. Il y a eu encore une autre diminution de 30%. Donc, 30%. Imaginez, un montant divisé par quatre, moins 30% encore. Et est-ce qu'on a besoin de ces nouvelles provinces pour qu'elles fonctionnent? Sans oublier que tous les matériels possibles, tous les matériels des bureaux sont restés dans le chef-lieu de la fine province. Donc les autres provinces n'ont pratiquement rien. Il faut commencer à zéro. Les assemblées provinciales n'ont pas de bâtiments. Il faut chercher des bâtiments à location. Il faut chercher des matériels. Il faut chercher donc tout. Et ces provinces sont complètement enclavées. Mais avec quel montant, avec quel argent, ces provinces vont fonctionner? Donc, on ne doit pas tenir de tels propos parce que ça énerve les esprits.
Honorable Gianni,
je crois qu'il y a eu... Oui.
Oui, donc vous dénoncez le fait que l'enveloppe qui était destinée à l'ancienne province orientale est actuellement divisée par quatre. Vous avez suivi le conseiller Benoît Youlama qui a relevé, n'est-ce pas, des problèmes de recettes qui ont sensiblement diminué.
Non, mon frère, je crois que quand on parle de diminution des enveloppes ou des recettes, moi je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord, effectivement, on peut parler de diminution parce qu'il y a eu baisse des prix des minéraux. Là, on est sûr, mais cette diminution n'a pas été 30% comme nous le vivons. Est-ce qu'en démembrant les nouvelles provinces, qu'est-ce qu'on avait comme idée? On avait une idée de développement ou une idée de nous faire reculer davantage. C'est la question que nous pouvons nous poser. Donc, quand on parle même des recettes locales, les recettes locales, on a parlé de la province du Bas-Uélé. Bon, quelles recettes locales on va trouver dans le Bas-Uélé? À quel niveau? Quel taux? Parce que moi, j'étais ministre provincial des ressources naturelles, je connais le niveau des recettes locales des Bas-Uélé. Moi, je connais, il n'y a pas grand-chose.
On dit que les Bas-Uélé ne produisent qu'environ 40 millions de francs congolais par mois.
Et peut-être pas encore.
Oui, on dit que le Bas-Uélé ne produit qu'environ 40 millions de francs congolais par mois. Est-ce que vous confirmez cela?
40 millions de francs congolais comme recette locale ou à caractère national?
Comme recette locale.
Oui, comme recette locale, c'est possible. 40 millions, ça peut être possible. Mais 40 millions, au moment où nous parlons, parce que tout le monde n'est plus chaud pour payer les taxes locales. Je ne sais pas si le gouverneur de la province de Bas-Uélé peut confirmer ces chiffres. J'ai douté de ces chiffres. À
Merci.
L'époque, c'était possible. Mais non, je ne crois pas que ça peut être possible parce que les esprits sont tellement
accusés
pour payer les taxes.
Merci, honorable. Maître Gilbert Katsingé, expert en décentralisation. Comment vous analysez ces phénomènes?
Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je voudrais d'abord, avec votre permission, commencer par saluer les auditeurs, les nombreux auditeurs de la Radio Okapi qui nous suivent à ce moment. Et je voudrais placer un petit mot en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, pour dire qu'en fait, il faut que nous puissions d'abord rester dans les textes, pour rester théoriques, avant d'analyser les faits, parce que en fait, la question de finances des provinces revêt deux aspects. Il y a un aspect légal et un aspect politique. En ce qui concerne l'aspect légal, il y a lieu de consulter d'abord ce que dit la loi. La loi qui porte principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, qui nous renseigne que le budget de l'État comprend le budget du pouvoir central et le budget des provinces. Et donc, il y a un budget du pouvoir central et un budget au niveau de chaque province. Le budget des provinces sont consolidés dans le budget du pouvoir central et le tout forme ce qu'on appelle le budget de l'État. Et ce budget de l'État, il fait l'objet de ce qu'on appelle la loi des finances ou la loi budgétaire. Et pour ceux qui sont experts en la matière, ils savent que c'est dans la loi budgétaire qu'on doit chercher les crédits qui sont alloués à chaque province. Et donc ici, la question peut-être aurait pu être posée à ceux qui gèrent le budget pour savoir quels sont les crédits qui sont alloués à telle ou telle province et quel est le taux d'exécution du budget en rapport avec ces crédits. C'est la question qui se pose. Mais d'autre part, il faut interroger aussi les textes pour se dire que dans les provinces, il y a des ressources de diverses origines. Il y a d'abord ce qu'on appelle les ressources propres. Vous savez qu'en consultant la Constitution et les différentes lois, il y a des impôts qui sont dévolus, qui sont attribués aux provinces. Je parle par exemple de l'impôt sur le véhicule, l'impôt foncier, la contribution sur le revenu locatif. Il y a donc un certain nombre d'impôts qui sont déjà d'office reconnus aux provinces. En plus de ces impôts, il y a la loi qui donne la nomenclature des taxes et d'autres recettes reconnues aux provinces, à laquelle on ajoute évidemment une autre loi, c'est une ordonnance-loi à ce jour, qui fixe la nomenclature des taxes, donc des impôts, des taxes et d'autres recettes reconnues au pouvoir central.
Alors, après cette explication, est-ce que vous comprenez ces phénomènes qui consistent, n'est-ce pas, pour le gouvernement à ne plus envoyer comme il se doit, n'est-ce pas, la rétrocession aux différentes provinces?
J'en viens. C'est ce que je voulais expliquer en disant que le gouvernement doit exécuter ce qu'on appelle la loi budgétaire. Et donc, lorsque le budget a été voté, il y a lieu de savoir quel est le crédit qu'on a alloué à telle ou telle province. Et en prenant ce crédit, cette ligne budgétaire, et il faut évaluer le taux d'exécution. Est-ce que, par rapport aux chiffres qui nous sont communiqués, est-ce que le gouvernement est en faute ou bien il respecte la loi des finances? Je me réjouis du fait qu'à ce jour, un projet de loi, je crois, de reddition de comptes a été déposé à l'Assemblée nationale pour essayer de voir si l'exécution du budget a été conforme aux prévisions. Et donc, les provinces doivent se plaindre, c'est vrai, mais il faut consulter la loi budgétaire. Mais à côté des ressources propres, comme j'ai dit, eh bien, il y a des ressources provenant des recettes à caractère national. Et donc, lorsque la province a mobilisé un chiffre donné en termes de recettes à caractère national, c'est un pourcentage, une quotité. En théorie, c'est 40% de cette ressource qu'on doit allouer, on doit rétrocéder, là, on se parle de retenue à la source, qu'on doit rétrocéder à la province. Je me demande comment une province qui a réalisé, par exemple, 1 million de dollars peut escompter une rétrocession de 5 millions pour pourvoir à tous ses besoins financiers. Ce serait en fait créer un déséquilibre. Il faut donc d'abord évaluer que produit la province qui se plaint pour savoir si elle est bien traitée ou pas.
Oui, c'est la cohérence parce que en fait, je l'ai relevé ici avec Monsieur Benoît Yolama. Il y a des provinces comme le Katanga à l'époque du gouverneur Katumbi et qui produisait beaucoup, mais qui recevait peu par rapport à ce qu'il produisait. C'est-à-dire qu'on ne tenait pas compte de ce que ces provinces produisaient. Donc, on peut savoir, on peut, n'est-ce pas, chercher à savoir combien ces provinces envoient à Kinshasa, mais si Kinshasa n'a pas la volonté, n'est-ce pas, d'aider ces provinces à pouvoir décoller, ça posera toujours problème.
Oui, le débat a toujours été ouvert sur cette question. Vous savez que pas plus tard qu'au cours de l'année 2010, si ma mémoire est encore bonne, il s'est tenu une conférence des gouverneurs à Kisangani. Et au cours de cette conférence, on a essayé de trouver des mécanismes qui ne sont pas très constitutionnels, hein, des mécanismes pour gérer cette question de rétrocession, de retenue à la source de 40%. Il a été convenu qu'il fallait non pas louer 40%, mais procéder à une certaine répartition conventionnelle de ces recettes-là aux provinces. Et à ce moment-là, il n'y en avait pas encore 26. Parce qu'il s'est avéré qu'il y a des provinces, vous prenez par exemple le Katanga, à l'époque, qui a un poste douanier, qui a des postes douaniers. Il y a des marchandises destinées à la province du Kasaï qui passent par le Katanga, mais la taxe douanière est perçue au Katanga, alors que la marchandise doit être consommée à Mbujimayi, par exemple.
Et vous, expert, vous aviez proposé à l'époque, comme solution provisoire, la mise en place de la Caisse nationale des solidarités.
Non.
Est-ce que cette caisse avait été activée?
Non, la Constitution n'a jamais dit que la Caisse nationale de péréquation... Donc,
les experts qui avaient proposé, pas la Caisse de péréquation qui existe déjà, qui est
fonctionnelle, qui n'a pas
mais la caisse nationale de solidarité pour pallier à ces difficultés, c'est-à-dire les provinces qui sont enclavées et qui ont du mal, n'est-ce pas, à faire des recettes parce qu'elles sont enclavées. Pour les aider, il y avait des experts qui avaient proposé cette Caisse nationale de solidarité, mais malheureusement,
qui n'a jamais fonctionné, voilà. Parce qu'il faut en définir les mécanismes, il faut en trouver d'abord la source juridique, et donc c'était très compliqué. C'est en fait des défis, parce que la mise en œuvre de la décentralisation, c'est un processus qui doit rencontrer un certain nombre de défis, et la réussite de ce processus dépendra de nos capacités à aller au-delà de ces défis, à trouver des solutions à ces défis.
De notre volonté aussi et de notre détermination.
Mais surtout de la volonté politique.
Et de la détermination.
Il faut absolument des hommes à l'esprit décentralisé pour la mise en œuvre de la décentralisation.
Merci, monsieur le conseiller Benoît Lama. Il y a une réflexion, n'est-ce pas, à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Bukavu au sud Kivu.
Jacques Bamfori qui est de Bukavu au sud Kivu. Ce n'est pas l'argent qui manque dans ce pays. Le grand problème est que la mauvaise foi et l'irresponsabilité se sont érigées en mode de gestion. À titre d'exemple, il a été démontré que l'argent ne manquait pas pour financer les élections. Au lieu d'en tirer toutes les conséquences et sanctionner les coupables, on a organisé des dialogues pour prolonger leur mandat en toute inconstitutionnalité. Au Parlement, c'est à peine qu'on prend des bénédictions des comptes et jamais nous n'avons entendu dire quoi que ce soit sur son résultat. Le pays va mal.
Monsieur Benoît Ulama, le pays va mal.
Bon, moi je ne peux pas affirmer ce que notre auditeur ou l'auditeur de la radio Capi de Bukavu a affirmé. Je crois que parler de la mauvaise foi ou de la mauvaise gouvernance entraînerait certaines confusions. Et dans tous les débats, depuis le début, nous avons souligné qu'il y a eu la chute d'abord de coûts de matières premières, essentiellement les minéraux. Et avec cette perte, il y a une incidence, presque dans tous les pays à travers le monde, il n'y a pas que la RDC. Et la plupart des recettes que nous avions proviennent des impôts. Et dans d'autres secteurs, je crois qu'il n'y a pas eu suffisamment de recettes. Et si nous, aujourd'hui même au niveau de la douane, vous l'avez relevé, ce qu'il y a eu aussi, il y a baisse, en tout cas très sensible des recettes. Et donc on ne peut pas considérer l'absence de recettes comme étant un problème politique.
Et que répondez-vous à l'honorable Paulin Oudiane qui a estimé que c'est un faux problème?
Bon, moi je ne saurais pas me mettre dans un débat avec l'honorable Paulin, puisque il a souhaité démontrer que l'enveloppe qui était prévue pour l'ex-province orientale était divisée à 4. Mais il oublie que c'est une obligation, même quand il fait allusion aux anciens biens qui appartenaient à l'ancienne province orientale. Tous ces biens ont fait objet d'un partage, c'est connu, il doit reconnaître cela. Et on a regroupé, il y a eu des délégués qui sont partis de Kinshasa, il y a les députés même qui ont assisté au partage de ces biens, mais il doit se rappeler que l'entreprise de Côte Nord qui existe dans l'ex-province orientale a été partagée entre l'ex-province, donc l'actuelle province du Bas-Zoélé et la Tchopo. Et l'ancien gouverneur, qu'il connaît très bien, a participé dans le rachat de cette entreprise. Il ne me dira pas qu'il n'a pas connu cela.
Comment vous expliquez le fait qu'on n'associe plus les délégués des provinces quand il s'agit, n'est-ce pas, de prendre des décisions sur la rétrocession de chaque province? Parce que ça s'est fait à l'époque, mais pourquoi depuis un certain moment, on ne veut plus associer les délégués de chaque province?
Oui, mais il n'y a pas longtemps, Maître Gilbert a fait allusion à une conférence de Kisangani, mais vous savez très bien qu'il y a eu une conférence de gouverneurs qui s'est tenue de la province du Haut-Katanga, et précisément à Lubumbashi. Et il y a eu des décisions, des résolutions qui ont même poussé le pouvoir central, et principalement le président Kabila, à préparer des enveloppes exceptionnelles pour les provinces, pour leur permettre de décoller. Et c'est un cadre qui a été éminemment politique, mais à la fois aussi constitutionnel. Et je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire. Le travail a été fait. Mais, alors, dire qu'on a baissé trop les recettes dans telle ou telle province, je crois que c'est une affirmation que je peux qualifier de gratuite. Le problème, c'est que même le salaire à Kinshasa, les frais de fonctionnement à Kinshasa ont sensiblement aussi ont été revus à la baisse, et même un projet de budget a été présenté pour revoir tous ces mécanismes-là, à moins que le député me dise qu'il n'a jamais suivi les activités du Parlement.
Donc, c'est connu. C'est pourquoi on a même souscrit dans la rétrocession qu'on donne aux provinces, on a souscrit les budgets qui étaient destinés aux investissements. Parce que jusque-là, depuis deux ans, ce qu'on envoie aux provinces, c'est juste pour les fonctionnements, pour les salaires, n'est-ce pas, des fonctionnaires. Mais on n'insère plus les budgets destinés aux investissements.
Mais c'est que je vous rassure que le budget est là, et il a diminué, c'est vrai, mais le budget existe. Il est là, puisque vous avez entendu la déchéance du gouverneur de la province de Chopal, donc Alex Équateur. Et si vous regardez dans les calculs qui ont été présentés par les autres, on lui reproche d'avoir touché aux frais d'investissement pour pouvoir allouer aux ONG pour faire les travaux de route. Donc ça n'a pas disparu du budget de l'État, et ce frais existe, mais il faut consolider de la globalité de cette démarche-là.
Merci, honorable Paulin Oudjiane. Il y a une réflexion pour vous qui vient de Lubumbashi.
Maxime Kabila, j'appelle depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Dit-on, ce qui se conçoit bien s'annonce aisément, et le mot pour le dire s'annonce clairement. Avec le difficile fonctionnement des provinces, suite à nos financements, il y a lieu de donner raison à ceux qui décriaient la mise en place du découpage parlant de la précipitation. Car il s'avère, à mon avis, impossible que le gouvernement puisse financer les assemblées provinciales avec tous les problèmes qu'il connaît sur le plan économique. Ça, c'est de un. De deux, avec l'accord du dialogue inclusif, la priorité que les dialogueurs se sont donnée, c'est l'organisation des élections dans les délais impartis dans l'accord, surtout que le pays entre dans une période intermédiaire. Je ne vois pas le gouvernement se détourner de cet impératif pour allouer des millions aux assemblées provinciales, qui sont d'ailleurs inconstitutionnelles aujourd'hui, au lieu de financer la CENI afin de mettre fin à la crise qui divise la classe politique et qui fait mort d'homme.
Honorable Paulin Oudjiane.
Bon, merci beaucoup. Je crois que notre compatriote a fait sa déclaration. Je suis à moitié d'accord avec lui à ce qui concerne la précipitation dans la mise en place des nouvelles provinces, mais à ce qui concerne la légalité des assemblées provinciales, sur le plan du texte, les assemblées provinciales sont légales. Il n'y a pas de discussion là-dessus, mais on ne peut pas faire le méli-mélo entre la légalité et et la légitimité. On ne peut pas faire la confusion entre les deux notions. Nous savons que les assemblées provinciales sont légales. Mais à ce qui concerne la position prise par, je crois que c'est M. Benoît qui vient de parler tout à l'heure, je lui dis tout simplement ceci. Donc, peut-être lui, il est acquis, il ne comprend pas ce qui se passe dans le domaine des finances. Je tiens à lui dire que l'enveloppe est destinée aux anciennes provinces, ces enveloppes sont restées telles quelles. On n'a pas divisé ces enveloppes par quatre. Par conséquent, les nouvelles provinces, comme nous, comme la province est scindée à quatre, on a divisé cette enveloppe par quatre. On a divisé par quatre, mais la même enveloppe, il y a eu encore réduction de 30%. Là, c'est clair, il n'y a pas de confusion là-dessus.
Honorable Paulin.
Lui, il a parlé de la conférence des gouverneurs qui a eu lieu à Lubumbashi. À Lubumbashi, il y a eu 11 résolutions. Est-ce que ces résolutions sont respectées? Non.
Honorable Paulin, honorable Paulin Oudiane, dans ce que vous dénoncez, on dit que chaque institution a sa part des responsabilités, hein, et on dit que par rapport à vous, députés provinciaux, vous ne jouez pas convenablement, n'est-ce pas, votre rôle de contrôle, n'est-ce pas, de gestion des finances publiques. Hein, on dit que par rapport à ces pouvoirs qui vous est reconnu par la Constitution, et toutes les assemblées provinciales de la RDC ont échoué.
Bon, il ne faut pas dire que toutes les assemblées ont échoué parce qu'on vient à peine de verser un gouverneur en Équateur. Donc, on ne peut pas dire que toutes les assemblées ont échoué. Donc, si on me dit que le contrôle n'est pas comme tel, n'est pas au niveau souhaité, là, je suis d'accord parce que certains collègues n'arrivent pas à s'occuper de cet aspect. Vous savez, que ce soit à Kine, là où vous parlez, l'Assemblée nationale n'échoue pas son rôle également pour contrôler le gouvernement. Le gouvernement central qui nous dit chaque jour que non, il n'y a pas de recettes. Mais pourquoi on a fait dix ans, on n'a jamais fait tomber un ministre? Cela signifie qu'au niveau des Kine, il n'y a pas de contrôle également. Au niveau des provinces, le contrôle n'est pas efficace. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la majorité de Kinshasa, si vous osez faire basculer un gouverneur, il faut envoyer une délégation pour venir calmer la situation. Parfois, on invite le membre du bureau de l'Assemblée provinciale à Kine et le membre du gouvernement. Donc, c'est Kinshasa qui entretient ce flou de désordre pour qu'on ne puisse pas contrôler efficacement les institutions provinciales. Moi, je sais, quand nous étions encore à l'Assemblée provinciale de la province orientale, j'ai bloqué le budget. En bloquant le budget, parce que le budget n'était pas... Donc, ne remplissait pas les conditions, n'avait pas présenté les rapports d'exécution du budget. Mais la délégation est venue de Kinshasa pour venir nous demander de ne pas aller dans ce schéma-là, alors qu'on a demandé que les rapports d'exécution du budget.
Merci.
Toute une délégation de la majorité présidentielle a quitté Kinshasa pour venir à Kisangani.
Merci.
Donc, vous allez condamner les députés provinciaux? Je ne crois pas.
Donc, il y a les interférences de Kinshasa qui sont à la base de cette situation aussi. Maître Gilbert Katsingé, il y a une réflexion qui vous est destinée à l'hygiène de Kinshasa.
John Kamangou, depuis la ville-province de Kinshasa. Les colosses difficultés que connaissent ces provinces sont sans doute les résultantes d'un découpage territorial précipité et non préparé. Car si déjà avec 11 provinces, l'insuffisance grandissante était constatée, a fortiori avec 26. Pire encore, ce sont des réactions en chaîne des différents responsables ayant en charge la résolution de ce problème, qui cherchent par tous les moyens à se dédouaner de ce problème ou se refuser toute responsabilité. Ce sont là les conséquences subies par un pays qui regorge plus de politiciens que d'hommes d'État.
Maître Gilbert Katsingé.
Oui, mais merci beaucoup. Je salue d'abord l'auditeur auteur de cette question. Et je lui réponds tout de suite en disant que nous ne pouvons pas, en tant qu'expert en décentralisation, parler d'un découpage précipité. Parce qu'en fait, le démembrement des provinces était déjà prévu avec des délais précis dans la Constitution. Vous vous souviendrez qu'on a même dû modifier la Constitution face à la difficulté de respecter des délais qui étaient vraiment fermés dans la Constitution. On a prévu qu'il fallait mettre en place une loi de programmation. La loi de programmation, nous en avons déjà discuté ici, elle a été mal conçue, mal élaborée, et elle nous a conduit vers la nomination des commissaires spéciaux. Et après les commissaires spéciaux, voyez-vous, nous sommes dans l'élection précipitée aussi des gouverneurs des nouvelles provinces. Et donc, nous sommes en fait en train de connaître quelques petits ratés dans la mise en œuvre de la décentralisation, mais ça fait partie du processus. Lorsqu'on écrira l'histoire de la décentralisation dans notre pays, eh bien, il y aura des petites taches noires, mais ça ne nous aura pas empêché d'avancer. Donc, c'est une jeune réforme, elle doit faire son chemin, et pendant son parcours, il est tout à fait évident qu'il y ait quelques ratés, quelques décisions inappropriées, quelques difficultés financières et ainsi de suite. Mais la Constitution, c'est-à-dire la volonté du peuple, était que le pays soit découpé en 26 provinces et des délais précis avaient été accordés.
Et à votre avis, vous en tant qu'expert, que faut-il pour permettre, n'est-ce pas, aux provinces, à toutes les provinces, de pouvoir décoller?
Il faut d'abord permettre à ces provinces de s'asseoir. C'est-à-dire il faut les accompagner techniquement par des séances de renforcement des capacités, parce que voyez-vous, une jeune province qui n'a même pas encore un personnel qualifié, qui n'a pas son administration autonome, qui doit être appelée à mobiliser ses recettes sans avoir les capacités techniques nécessaires. Il faut donc accompagner techniquement ces provinces pour qu'elles arrivent à un moment donné à voler de leurs propres ailes. On ne peut pas leur demander de naître aujourd'hui et de commencer à voler comme les provinces en Europe qui ont déjà fait des centaines d'années dans la décentralisation. Il y a donc des difficultés inhérentes à tout début et ça ne peut pas nous empêcher d'espérer qu'il y aura finalement une décentralisation assise au bout de quelques années.
Monsieur Benoît Yerama, que faut-il pour permettre à ces provinces de décoller? Vous avez suivi l'expert Maître Gilbert Kelsinger qui estime qu'il faut accompagner, n'est-ce pas, ces provinces. Il ne faut pas les abandonner, c'est des nouvelles provinces qui doivent être accompagnées, n'est-ce pas, notamment par des renforcements des capacités.
Bon, nous sommes totalement d'accord avec Maître Gilbert sur cette question. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement central même ait prévu un ministère ayant en charge de la décentralisation et des affaires coutumières. C'est un grand ministère et qui a certains experts qui s'y connaissent en la matière. Mais ce que nous souhaitons, c'est d'abord qu'il y ait une volonté par ceux-là qui sont aujourd'hui des dirigeants. D'abord au niveau provincial. Et les éléments qui ont été relevés par le maître Gilbert ainsi que certains auditeurs, je crois qu'en les analysant, nous pouvons tomber d'accord que le problème est d'abord d'hommes. On ne peut pas commencer à justifier les ressources alors que certains n'ont même pas un projet de société à présenter. Et si on estime que c'est le pouvoir central qui a émietté le fonctionnement des provinces, c'est qu'on est en train de se tromper. Puisque, par exemple, la province du Bas-Uele est dirigée par un gouverneur qui vient de l'opposition. Et si celui-là n'a pas fait preuve, on ne peut pas accuser le gouvernement central. Et moi, j'étais dans cette province, j'étais à Kisangani. Moi, je ne vois pas comment on peut m'apprendre les choses, puisque je me trouverai à Kinshasa présentement.
Et
donc, nous pensons qu'il faut encourager. Et je donnerai un exemple. En France, la décentralisation n'a pas encore fini son processus. En Corse, il y a des problèmes jusqu'à aujourd'hui, mais ça a débuté depuis 1981, s'ils ne me trompent pas. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et donc, c'est un processus. Nous devons certainement nous en assumer. Et il n'y a pas de précipitation dans tout état. Même un enfant qui naît ne peut pas marcher en une journée. Il faudrait permettre à l'enfant de passer tout le processus pour qu'un jour, on parle que cet enfant a grandi. S'il n'a pas donc subi le processus, il ne marchera pas.
Merci. Honorable Bonnet, Odiane et Sassaros, votre conclusion, qu'est-ce que vous préconisez, n'est-ce pas, pour permettre à ces provinces de pouvoir décoller? Vous avez suivi Maître Gilbert Kiatsingé, qui a conseillé, n'est-ce pas, qu'on puisse accompagner ces nouvelles provinces.
Merci beaucoup. Je crois qu'avant de répondre à votre préoccupation, j'aimerais dire à l'expert, au conseiller Benoît, que les bases ULE n'est pas dirigée par l'opposition. Donc, il sait comment on a fait pour que les gouvernements ne soient plus de l'opposition.
Et la solution, c'est quoi pour permettre que...
Pardon ?
Oui, la solution, c'est quoi pour que les provinces puissent se décoller ?
Bon, la solution, c'est d'abord la volonté politique. Ça, c'est un. Sans la volonté politique, on ne peut pas aller de l'avant. C'est deux. Il faut que nous ayons des institutions efficaces. Parce que dans ces pays, nous avons des ressources. Il y a de l'argent. Sauf les budgets qu'on présente. Les recettes dépassent de loin les budgets qu'on présente. Mais la différence va dans une quête noire.
Merci, merci, honorable. Maître Jouet Kassigé, votre conclusion.
Eh bien, je voudrais que tous les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de la décentralisation puissent permettre à celle-ci d'avancer. À partir du pouvoir central, ceux qui doivent décaisser les fonds, ils doivent le faire avec beaucoup de volonté. Ceux qui doivent consommer, soit doivent exécuter ces fonds, doivent aussi privilégier la bonne gouvernance et l'intérêt supérieur de leur province.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.